Le 26 décembre 1908, Marcelin Boule pose à la une du journal Le Matin. Il tient dans une main le crâne de l'homme de la chapelle au sein. Il signe également un article sur cet homme fossile découvert en Corrèze et qui aurait autour de 20 000 ans. Le sous-titre, très accrocheur, reprend une question qui fut à la mode au début de la diffusion de la pensée de Darwin. N'est-il pas infiniment plus honorable de descendre d'un singe perfectionné que d'un ange déchu ?
La conclusion de Boole est très claire. L'homme lui-même n'échappe pas à la loi générale de l'évolution des êtres, qui est essentiellement une loi de progrès. Son origine animale semble de moins en moins douteuse. Et ceci ne saurait avoir rien d'affligeant, car les origines les plus humbles sont parfois les plus glorieuses.
La découverte du fossile de la chapelle au sein clôture les controverses ouvertes 50 ans plus tôt lors de l'exhumation de restes humains fossiles en Prusse, dans le vallon de Néander. La conformation singulière du crâne au front fuyant, ainsi que la longueur et la robustesse de certains os, posent au départ une énigme. Certains doutent de son caractère humain, ou voient en lui un cas pathologique. D'autres, au contraire, font de l'homme de Néandertal un ascendant de l'espèce humaine. Il constituerait une étape significative dans l'évolution allant du singe à l'homme.
Durant toute la seconde moitié du XIXe siècle, différentes découvertes vont étayer l'hypothèse d'un néandertalien ancêtre fossile des hommes actuels. Mais elle demeure fragmentaire. Faute d'éléments de comparaison, la controverse se poursuit. Pendant l'été 1908, un pas considérable est franchi lorsque les frères Buissoni, prêtres et naturalistes, mettent au jour en Corrèze, à la chapelle au sein, les restes d'un homme fossile relativement bien conservé. Marcelin Boole le qualifiera de néandertalien le plus complet que l'on ait découvert jusqu'alors. Ce savant se plaint régulièrement de ce que les amateurs ne cherchent qu'à grossir leur petite collection d'antiquités. Des trésors d'observation sont ainsi perdus pour la science. Les fouilles effectuées par les frères Buissoni permirent une reconstitution satisfaisante. Ils avaient été, comme leur ami l'abbé Henri Breuil, initiés aux rudiments de la technologie lithique lors de leur formation au séminaire. Ils prélèvent l'essentiel du corps et formulent l'hypothèse qu'il s'agirait des restes d'un néandertalien. Mais ils veulent faire expertiser leur découverte par un scientifique reconnu et s'adressent à Marcelin Boole, professeur de paléontologie au muséum.
Boole ordonne les ossements dans son laboratoire et les fouilles sont approfondies sur place.
D'autres fragments du squelette sont peu à peu mis au jour et permettent une reconstitution crédible.
Quelques mois plus tard, en décembre 1908, une première note de Boole est lue à l'Académie des sciences.
Il publie à partir de 1911 une monographie en 3 volumes qui fera date.
Sa grande fierté est de pouvoir présenter l'homme de la chapelle au sein dans la Galerie nationale de paléontologie, afin de montrer au public les enchaînements du monde animé au cours des âges géologiques.
L'écho est considérable, tant dans les milieux scientifiques et cultivés que dans la presse populaire.
Le tout Paris politique et mondain, y compris le président du conseil Georges Clémenceau, se rend dans le laboratoire de Boole pour découvrir le fameux chaînon manquant décrit par les journaux.
C'est dans ces circonstances qu'a lieu une discussion décisive entre Marcelin Boole et le prince Albert Ier de Monaco. Boole en fit le récit dans ces termes. D'innombrables visiteurs défilèrent dans mon laboratoire du muséum pour voir le crâne déjà devenu célèbre. Ces visiteurs appartenaient à toutes les catégories sociales de la capitale. Le prince de Monaco voulut accomplir lui aussi cette sorte de pèlerinage. Il vint me voir un après-midi d'été, très impressionné à la vue du vénérable document ostéologique. Il resta fort longtemps à le contempler, à l'examiner sous toutes ses faces, à scruter les détails particuliers de sa morphologie.
Puis, le soir tomba.
Le couchant s'embrasa derrière le dôme du Panthéon et les silhouettes plus fines des autres monuments de la montagne Sainte-Geneviève.
Là, devant ce beau spectacle, le prince me fit part d'un nouveau projet auquel il pensait depuis longtemps et qu'il était maintenant décidé à réaliser.
Il me demanda de lui préparer le plan d'un institut de paléontologie humaine.
Cela faisait plus d'un siècle que la question des origines de l'homme passionnait bien des esprits. Aux quatre coins du territoire, on s'imaginait trouver trace des ancêtres des Gallois et autres Celtes. Ainsi, en 1824, de gentils promeneurs identifièrent dans la forêt de Fontainebleau, parmi les innombrables rochers, l'un d'entre eux qui ressemblait à la silhouette d'un homme. Ses savants, la petite semaine, en déduisirent qu'il s'agissait du corps d'un homme fossilisé. Ils dégagèrent la pierre et la menèrent en grand équipage jusqu'à Paris pour faire expertiser leur formidable découverte. Ils la présentèrent dans un bastringue des grands boulevards. Il s'avéra que le supposé fossile n'était qu'une sculpture récente, qui avait été amorcée puis abandonnée quelques décennies plus tôt par son auteur. La presse se fit largement écho de cette malheureuse aventure dans laquelle l'Académie des sciences faillit être dupée. Deux écrivaillons tournèrent en dérision ces naturalistes si prompts à voir des fossiles humains dans le moindre rocher. Ils en tirèrent une folie vaudeville en un acte qui fut présenté au théâtre du Gymnase en août 1824.
La question des ancêtres de l'homme ne préoccupait pas que les auteurs de vaudeville. Des érudits locaux et des collectionneurs assemblaient des pierres et des ossements et tentaient de leur donner un sens. Les sociétés savantes locales se multipliaient. Une des plus anciennes est la Société polymathique du Morbihan, créée en 1826. À la même époque, un pharmacien de Narbonne, Paul Tournal, entreprit dans l'Aude les fouilles de la caverne de Bise. Il exhuma des ossements humains, des tessons de poterie et les restes d'espèces animales disparues. Il publia en 1829 une synthèse où il déclarait, avec beaucoup d'audace pour l'époque,
« Ainsi, l'homme a non seulement été contemporain d'anciennes espèces animales, résultat auquel nous étions parvenus depuis longtemps, mais à une époque antérieure, il a été également contemporain d'animaux maintenant disparus de la surface du globe et qui caractérisent les populations antédiluviennes. »
Ils étaient des centaines à arpenter les bancs d'argile, les dépôts d'alluvions, les grottes et anfractuosités de toutes sortes. Celui qui devint le plus fameux est Jacques Boucher de Perthes, directeur des douanes à Abbeville, collectionneur et découvreur. Mais de son vivant, il ne parvint jamais à être vraiment reconnu pour sa science.
Je suis un bohème de la science. Aucune autorité académique ou politique n'a jamais pris mon travail en considération. De quoi ne m'a-t-on pas accusé ? De fascination pour le grondement du génie des ténèbres ? D'exorcisme ? J'ai été la risée de la science académique et de l'orthodoxie régnante. Il est vrai que je fracassais quelques mythes choyés par les plus beaux esprits. Non, messieurs, l'histoire de France ne commence pas avec les campagnes de Jules César. Hélas, malgré mon intuition, je n'ai pas encore trouvé, lors de mes nombreuses fouilles des terrasses de la Somme, l'homme fossile. Mais en découvrant ses œuvres, j'ai fait reconnaître la preuve de son existence. Le premier, j'ai distingué les pierres brutes, des silex taillés, eux-mêmes antérieurs aux silex polis. En faisant agréer la majeure partie de mes collections, des milliers de pièces, c'est l'acceptation de la préhistoire que j'ai réussi à imposer, après de longs combats, aux plus savantes autorités. C'était sans doute trop peu pour l'Académie des sciences, qui mettra 20 ans à reconnaître mes travaux.
Pourtant, dès 1846, il a publié un livre, « De l'industrie primitive », réédité sous un titre plus accrocheur, « Antiquités celtiques et antédiluviennes ». Ceux qui l'ont lu ne l'ont fait que pour dire que l'auteur est un fou. Selon eux, il faut l'être pour prétendre qu'il y avait des hommes avant les Assyriens et des monuments avant ceux de Babylone, bref, que l'homme ne serait pas né d'hier.
Je fais l'hypothèse que l'homme antédiluvien différait physiquement de l'homme actuel et qu'il devait ressembler aux races noires, aux cuivrées. Ah, qu'une vérité est dure à faire avaler aux savants. Il semble toujours craindre qu'il y en ait trop, comme si c'était chose si commune dans ce bas monde adorateur du mensonge. Dois-je rappeler la longue liste de mes humiliations ? Plutôt celle infinie des jalousies et des incompétences ?
En 1840, le muséum refuse de recevoir ses pierres taillées, les restes de poterie et les ossements fossiles d'animaux qu'il lui destinait. Lorsque se précise le projet d'un musée archéologique, Boucher de Perthes propose gracieusement ses collections à M. Viollet-le-Duc, afin, écrit-il, « qu'il soit bien constaté que je n'ai rien vendu, ni fait de spéculation quelconque, et que je suis prêt à tout donner, dans le seul intérêt de l'art et du pays. »
En 1843, à l'annonce de l'ouverture du musée de Cluny, il s'adresse à différentes autorités, dont messieurs du Sommerard, Mérimée et au ministre de l'Intérieur lui-même. Leur acceptation demeure de pur principe. Ils ne feront jamais effectuer le transfert.
Mes collections désarçonnent les petits esprits systématiques. Ma demeure d'Abbeville regorge de pièces aussi précieuses qu'hétéroclites, assemblées par mon défunt père et par moi. Des meubles de chêne, des incrustations des cahiers d'ébène, des bas-reliefs, des statues, des figures en bois, en marbre, en bronze, des poteries de toutes les époques, dont plusieurs de Bernard Palissy, des ivoires anciens et du plus beau travail. Ce n'est qu'une petite partie de la donation que j'envisage de faire à l'État. On dit que je suis un donateur aussi impétueux qu'impatient, voire un polémiste. Pourtant, je me suis toujours adressé à ces messieurs avec la plus extrême modestie.
Lettre de Boucher de Perthes à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Abbeville, 31 juillet 1847.
Je viens d'envoyer au secrétariat de l'Institut une petite caisse contenant des échantillons des terrains diluviens de nos environs et une vingtaine de silex travaillés de main d'homme, trouvés dans ces terrains au-dessous des ossements fossiles d'éléphants, de rhinocéros et d'autres animaux d'espèces éteintes. Ceci, je l'espère, déterminera la commission dont vous faites partie à venir à Abbeville, où je serai heureux de la recevoir. La question est importante, et je l'ai nettement posée dans mon livre de l'industrie primitive, dont je vous ai remis un exemplaire. Que l'on trouve des ouvrages d'hommes dans les terrains diluviens, c'est ce qui est indubitable. Et l'examen des morceaux que j'envoie, encore entourés de leurs gangs, suffirait seul à le prouver. Qu'en outre, sur ces armes et ustensiles de pierre, on recueille des signes purement symboliques, des figures grossières d'hommes et d'animaux, c'est également vrai. Pourtant, la chose sera plus contestée, car il s'agit rien moins que de la langue hiéroglyphique primitive et des types de ces monuments dits à tort celtiques ou druidiques et qui, si je ne me trompe, doivent sinon tous, du moins beaucoup, être plus anciens et remonter au premier temps de la population des Gaules. Si la commission voulait venir examiner les lieux et les objets que j'y ai découverts, peu d'heures lui suffiraient pour que son opinion fût fixée. Elle pourrait nommer cette science nouvelle archéogéologie. Je n'ai jamais eu l'honneur d'une telle visite. Pourtant, je reçus quelques appuis, dont ceux de l'archéologue M. Didron. Après avoir examiné mes pièces à Abbeville, impressionné, il écrivit à son retour.
Cet amateur possède une collection unique en France, et probablement en Europe, celle de ses instruments celtiques en os et en pierre, et de ses haches et figures, dont on imprime en ce moment la description et les dessins, ainsi que la coupe des terrains où ils ont été découverts. Cette collection est composée de plusieurs centaines de morceaux d'une rareté incontestable et qui remplirait, on ne peut mieux, une lacune existant dans nos musées.
20 ans plus tard, en 1861, sa collection de pièces lithiques sera l'une des premières à intégrer le musée des Antiquités nationales que l'empereur Napoléon III crée à Saint-Germain. Mais il faudra 46 ans pour en faire l'inventaire complet. Les petits bureaucrates devaient crouler sous le versement de multiples fonds. Sans doute ont-ils considéré ces collections comme un bric-à-brac, tout juste bon à croupir dans un grenier. Ces travaux ont reçu un meilleur accueil en Grande-Bretagne, en particulier grâce à Charles Lyell, qui est une sommité en géologie. Mais cette fois, cela dérange la fibre nationale.
Ce n'est qu'en 1859 que le paléontologue Albert Gaudry vient soutenir devant l'Académie des sciences la thèse de la haute antiquité de l'homme. Il confirme ainsi les travaux de Boucher de Perthes. Pourtant, en 1861, dans un geste désespéré, ce dernier lègue le reste de ses collections à la municipalité d'Abbeville. Tout sera détruit en mai 1940 sous les obus allemands. Tardivement, Boucher de Perthes devint cependant en France le père de la préhistoire. Durant tout le XIXe siècle, à quelques exceptions près, les autorités publiques sont restées indifférentes aux découvertes faites par les amateurs et les sociétés savantes locales. Un spécialiste, Salomon Reynac, écrit « Si l'on accepte les travaux subventionnés par Napoléon III et la commission de topographie des Gaules, on reste confondu par le peu de retentissement que provoquèrent dans ces sphères officielles des recherches qui allaient permettre d'écrire sur des bases nouvelles l'histoire de la Gaule avant la conquête romaine. Il fallut les craintes légitimes inspirées par un ravageur de nos stations paléolithiques du Périgord pour qu'on se décidât à comprendre la nécessité d'une politique archéologique suivie. Napoléon III amorce en 1861 la création d'un musée des antiquités nationales. Des amis du souverain, Hortense Cornu et son mari, l'ont mis en contact avec le roi du Danemark, qui s'intéresse aussi aux origines lointaines de sa population.
Le roi Frédéric VII de Danemark a le plaisir et l'avantage d'adresser à votre majesté plus de 300 pièces d'antiquités préhistoriques danoises, le tout rangé dans des caisses de bois poli et accompagné d'un petit catalogue en français. Le roi trouverait grand avantage au développement d'échanges culturels.
Cherche-t-il un contrepoids à la fébrilité de son voisin germanique ?
Pour une fois, science et politique pourraient aller d'un même pas.
Puis-je vous rappeler que c'est moi, sur vos bons conseils, qui me suis manifesté auprès de Frédéric VII en lui envoyant un émissaire afin de rechercher des traces des Romains et des Celtes dans son pays ?
Précisément. À propos de Celtes, c'est un mot fourre-tout pour désigner ce qui parmi le plus ancien et le plus mal identifié. Frédéric VII a fait accompagner ses présents de M. Thomsen, son meilleur spécialiste. Il a déjà organisé un musée archéologique afin d'éduquer le peuple danois et lui présenter ce qu'il appelle les trois âges de l'humanité, la pierre, le bronze et le fer. Et son éminent collègue allemand, M. Lindenschmidt, en a repris le principe en créant à Mayence un autre musée. Profitez de la venue de M. Thomsen pour lui demander conseil.
Je n'ai attendu ni les Allemands ni les Danois pour me soucier de notre histoire ancienne. L'Empire a tout à gagner dans une connaissance approfondie de l'histoire romaine et de ses suites. J'ai donné l'impulsion à d'importantes recherches d'antiquités. Nous serons bientôt encombrés d'objets. J'attends 60 caisses de Syrie et je recevrai prochainement beaucoup de pièces venant de Grèce et d'Asie. Sans compter les antiquités gauloises qui sont déjà en grand nombre, je voudrais réunir les pièces justificatives de notre histoire nationale dans le château de Saint-Germain-en-Laye.
À l'évidence, les quelques raretés celtiques de haute valeur qui se rencontrent dans les musées des Thermes ou de Cluny ne comblent point les lacunes notoires du Louvre en ce domaine. Le British Museum a eu une autre politique. Il dispose déjà d'une collection de l'âge du Rennes. Il vous faut remédier à ce manque considérable.
4 mois après la visite de M. Thomsen, je signais le décret du 8 mars 1862, créant à Saint-Germain-en-Laye le musée d'antiquité gallo-romaine, placé dans les attributions du service des musées impériaux.
Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour que les recherches préhistoriques connaissent un véritable essor et acquièrent un statut scientifique. Un des moments fondateurs se situe en 1859, lorsque les plus grands géologues anglais se rendent dans la banlieue d'Amiens pour examiner les carrières de Saint-Acheul. Puis, c'est le paléontologue Albert Gaudry qui mène des fouilles. Leur conclusion consacre les assertions de Boucher de Perthe. D'autres savants, comme Armand de Quatrefage, Gabriel de Mortillet ou Émile Cartaillac, s'efforcent de définir des concepts et des méthodes pour l'étude de la préhistoire. Des congrès internationaux se tiennent à partir de 1866. Mais la communauté scientifique des préhistoriens français demeure morcelée et sans support académique véritable, jusque dans les premières années du XXe siècle.
En revanche, le nombre d'archéologues amateurs ne fait que croître. Il multiplie les prospections dans une quête effrénée de « la belle pièce ». Souvent, ils veulent plus trouver que savoir. Cependant, la vulgarisation scientifique se développe et de nombreux guides sont édités pour orienter les pratiques des amateurs. Ainsi, en 1898, Marcelin Boule publie sur le Cantal un « guide du touriste, du naturaliste et de l'archéologue ».
Le prince Albert Ier de Monaco est au départ un de ces amateurs éclairés. Il tient un rôle décisif dans la phase de transition menant de l'anthropologie humaine des fouilles de hasard à sa période scientifique. Officier de marine, il acquiert des compétences d'océanographe et mène à partir de 1885 des campagnes d'exploration. Son intérêt porte sur les ressources biologiques et les espèces peuplant les océans. Il est surtout reconnu pour les travaux qu'il mène sur le Gulf Stream depuis les Açores.
À partir de 1883, Albert Ier entreprend aussi des fouilles dans des grottes proches de la principauté. Il s'entoure de plusieurs collaborateurs pour mener à bien ses chantiers, dont l'abbé Léonce de Villeneuve, chapelain et bibliothécaire du palais.
Comme vous le savez, mon père, la région de Menton présente de nombreuses cavernes. Les fouilleurs de hasard ont joint le plaisir de la villégiature au défi de l'exploration, avec pour conséquence une évidente dilapidation des richesses archéologiques et un nombre considérable d'imbroglios divers.
C'est là, dans la grotte du Cavillon, que ce préhistorien, M. Rivière, découvrit en 1872 les restes fossiles de celui que l'on nomme l'homme de Menton.
Le bonhomme est un peu brouillon et a une fâcheuse propension à multiplier les chantiers de fouilles sans procéder de façon systématique. À force d'être partout, il n'est nulle part. Quant à la qualité de son travail, je suis certain qu'il s'agit d'un chercheur consciencieux, mais il laisse un peu trop facilement la besogne à ses ouvriers. Rappelez-vous qu'il était très fier d'annoncer qu'en 2 ans et demi de fouilles, il avait mis au jour plus 1 million de pièces, ossements, dents animales, silex taillé, coquillages marins et terrestres. C'est pour reprendre cela un peu plus sérieusement que je me suis décidé en 1883 à réaliser une première série de fouilles dans une grotte de Grimaldi, la Barma Grande.
Le site était déjà endommagé par les passages de nombreux fouilleurs. Aujourd'hui, après des années d'extraction de pierres, la grotte n'existe même plus.
Un carrier avait investi le lieu et s'en déclarait propriétaire. Mais il m'accorda finalement l'autorisation de procéder à quelques recherches. Je me suis attaché à étudier une brèche oubliée. J'ai effectué les dégagements, nettoyé et marqué toutes les pièces. Chaque soir, nous ramenions à Monaco la collecte. Et afin d'éviter de revivre les querelles scientifiques si fréquentes, je tenais un protocole précis des fouilles. J'expédiais aussi au muséum des colis de pièces afin de les faire expertiser.
C'est alors que les complications s'accumulèrent, tant avec le carrier qu'avec le préhistorien, Rivière.
Chacun d'eux revendiquait un droit sur le lieu, et donc sur le fruit de mes découvertes. Je me lassais, et quelques mois plus tard, je me laissais regagner par ma passion principale, l'océanographie.
Jusqu'au moment où j'ai attiré votre attention sur la grotte du pont romain.
Je l'avais pourtant déjà visitée sans y faire de découverte.
Des fossiles intéressants furent dégagés et soigneusement enregistrés selon votre méthode. Une grande quantité d'ossements d'animaux, de produits d'industrie humaine primitive et, quelques années plus tard, dans la grotte des enfants, les squelettes des hommes, auteurs de ces industries.
Tout cela nous éclaira sur la succession des événements au temps quaternaire.
Sur vos conseils, j'ai contacté quelques savants pour expertiser nos travaux. En 1897, Marcelin Boule accepta de superviser les fouilles des grottes Grimaldi. Et un peu plus tard, en 1900, Émile Cartaillac nous assista dans le dégagement des 2 sépultures paléolithiques de la grotte des enfants.
Le professeur Boule est un homme remarquable. Nous lui devons beaucoup d'un point de vue scientifique, mais aussi en tant que pédagogue. Il a su donner vie à nos collections en participant à la conception du musée d'anthropologie préhistorique de notre principauté, inauguré en 1902.
C'est ainsi que la passion de la préhistoire s'est emparée de vous et vous a arraché à la seule fascination des fonds marins.
Pour succomber à celle des origines de l'humanité, qui sont finalement bien plus complexes que ce que les fables aussi naïves que mystiques ont prétendu pendant 20 siècles. Je me souviens de mon émotion à la découverte des relevés des peintures pariétales d'Altamira, réalisées par Breuil et Cartaillac. C'était en 1903. Ils revenaient d'Espagne avec dans leur carton de formidables dessins d'un incroyable bestiaire polychrome. Je vous avoue que ce fut pour moi un vrai choc, intellectuel et esthétique. J'ai eu la chance de connaître leur travail au moment où ils cherchaient un moyen pour financer la publication de leur relevé. Le coût était important, mais ils m'ont convaincu de l'origine primitive des grottes ornées. Je décidai de leur apporter mon aide.
En 1909, sur un bateau au large de l'Espagne, le prince Albert Ier de Monaco échange avec le peintre Louis Tinère, qui l'accompagne depuis longtemps dans ses explorations océaniques. En compagnie de l'abbé Breuil, ils se rendent sur le chantier que l'abbé Obermeier, ami de Breuil, mène dans les grottes du Castillo, près de Santander. Puis, ils iront à Altamira.
L'abbé Breuil a-t-il d'autres projets après l'exploration des grottes hispaniques ?
Je ne sais pas. Il me semble avoir déjà suffisamment de chantiers à mener à terme. Mais à ce propos, il faut que je vous annonce quelque chose.
Encore une nouveauté ?
Plutôt une continuité. Vous le savez, j'ai rendu visite à M. Boulle dans son laboratoire au muséum pour qu'il me présente le fossile de l'homme de la chapelle au sein.
La presse raconte que le tout Paris intellectuel et politique s'y est précipité.
J'ai le privilège de lui avoir fait confiance avant les autres. Nous avons eu un souper et il m'a parlé de l'intérêt qu'il y aurait à créer un institut autonome de paléontologie dédié à l'homme.
Votre musée d'anthropologie préhistorique de Monaco ne vous satisfait pas ?
Pas suffisamment. Les besoins sont immenses. Lorsque j'ai parlé de l'état de la science préhistorique avec M. Boulle et avec l'abbé Breuil, ils m'ont tous deux dressé un véritable réquisitoire.
Mais est-ce vraiment une science en devenir ?
Je ne suis qu'un amateur en ce domaine, mais la curiosité intellectuelle me pousse à m'intéresser vraiment à l'exploration des sites anciens. En rapprochant l'histoire de l'océan et celle de la vie, je ne fais que respecter une loi de la science moderne qui prépare progressivement la fusion de tous ces éléments de connaissances en un domaine magnifique où le travail scientifique sera coordonné et notre réflexion élargie.
En attendant, de la fouille à la dévastation, le pas est vite franchi. Beaucoup ne cherchent que de belles pièces. Des personnes louent ou achètent des terres comportant des sites paléolithiques et les explorativement pour en extraire des objets et des fossiles monnayables. Les agissements de cet aventurier suisse Otto Hauser sur les gisements de la Vézère suscitent beaucoup de protestations.
Même si cette affaire est un cas extrême, elle montre la fâcheuse tendance à l'exploitation mercantile du patrimoine archéologique. Ce monsieur Hauser a des relations privilégiées avec les musées et les archéologues allemands. Il leur vend des pièces et leur ouvre des zones d'exploration. L'affaire du transfert en Allemagne des restes de l'adolescent néandertalien du Moustier et leur vente pour 100 000 francs exaspère les passions scientifiques autant que nationalistes. Et bien que je sois proche du Kaiser Guillaume II, je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher.
De plus, les initiatives malencontreuses de quelques truqueurs n'ont rien fait pour crédibiliser cette discipline.
Vous pensez aux fouilleurs de l'île Rioux ?
Une extraordinaire mystification, au large des calanques de Marseille.
Le pseudo-découvreur avait attribué à une couche profonde un squelette qui était en surface et avait fait de quelques silex taillés des cartes de visite égyptiennes.
Tricherie d'autant plus étonnante qu'elle émanait d'un prêtre.
Qu'adviendra-t-il des croyances d'Onville-Église si des mécréants s'obstinent à mettre au jour des squelettes de plus en plus apparentés aux singes ?
Au-delà de la galéjade et de la manœuvre enfantine, certains y voient une façon pour l'Église de s'emparer de la préhistoire, comme si elle voulait garder la maîtrise de l'histoire de l'évolution humaine.
De son côté, l'université Rushing a développé des enseignements en laissant la responsabilité à des organismes privés.
Boulle lui-même regrette que le muséum ait parfois une attitude ambivalente à l'égard de la paléontologie. Pourtant, il a eu un rôle décisif dans la rénovation de la galerie d'anatomie comparée et de paléontologie.
Mais l'humain y figure toujours en pointillé. Il y a toujours des esprits chagrins pour s'interroger sur l'utilité de la paléontologie.
Des successeurs de Cuvier, y compris le secrétaire de l'Académie des sciences, ont longtemps soutenu que l'apparition de l'homme sur Terre était largement postérieure à l'existence des espèces animales disparues.
Nous n'en sommes plus là. Il est temps de faire entrer concrètement l'histoire humaine la plus ancienne dans le temps long de la Terre. Je veux faire aboutir ce projet d'institut.
Amateurisme, recherche du profit, supercherie, querelles théologiques, tout cela fait mauvais ménage avec la science. Y a-t-il encore quelque place pour un peu de raison ? Si je puis me permettre, le terrain me semble totalement miné. Enfin, comment pouvez-vous envisager de créer un institut de recherche alors que les controverses scientifiques, économiques et religieuses sont si vives ? D'autant que vos principaux conseils, messieurs Boulle et Breuil, sont loin d'être toujours d'accord entre eux.
C'est cela qui est passionnant. Une science stabilisée sans controverse ne serait qu'une mer assoupie. Tenez, regardons, voulez-vous, les principaux débats. Ils sont plus excitants les uns que les autres. Et pas un qui ne porte sur un sujet majeur.
D'où viens-je ? Mon lointain ancêtre est-il une création de Dieu ou une sorte de vieux singe ? Qui croire ? Les curés, les pasteurs et leurs bibles ? Ou bien les savants barbus qui retournent les cavernes avec leurs pioches ? pour être convaincu par ces théories à la mode. J'attends qu'on me montre la collection bien ordonnée de ceux qui prétendent être mes ascendants.
La question est un petit peu plus compliquée. Je dirais, y a-t-il ou non une continuité dans l'évolution allant des singes anthropoïdes jusqu'à l'Homo sapiens ?
On s'interroge en effet sur l'unicité de l'espèce humaine, de ses origines à ses formes actuelles.
Certains, comme Thomas Huxley, voudraient que l'homme de Néandertal soit le chaînon manquant entre les formes primitives et les formes actuelles.
Pour eux, il existe un atavisme néandertalien. Cette ascendance commune à tous les hommes se manifesterait par la résurgence, chez certains d'entre nous, de traits physiques propres à cette lignée.
Un de mes voisins, avec ses bras immenses, ses mâchoires carrées et ses énormes arcades sourcilières, me semble bien appartenir à cette famille.
Chacun voit l'histoire à sa porte. Certains prétendent même que Rodin aurait pris pour modèle du penseur un homme ayant des traits néandertaliens très marqués.
Lettre du sculpteur Joanny Durand à Marcelin Boule, le 9 mai 1909. Monsieur, sortant de l'amphithéâtre du muséum, où j'ai eu l'honneur de vous applaudir, je me permets de vous adresser la présente pour vous signaler un cas physiologique qui m'a paru intéressant vis-à-vis des rapprochements que l'on peut faire entre lui et les caractères particuliers aux races primitives énoncés par vous dans votre conférence de ce soir. Il existe à Paris un homme d'un certain âge qui présente tous les caractères de la race simiesque. Cou court et très musclé, jambes arquées, marche en flexion, avant-bras très longs retombant naturellement en pronation complète, coudes éloignés du torse, crâne en carène, arcades sourcilières proéminentes, nez très large, prognathisme exagéré du maxillaire inférieur, etc. Cet homme est celui dont s'est servi le sculpteur Rodin pour le penseur qui est devant le Panthéon. J'ai vu ce fameux modèle la semaine dernière à l'école des Beaux-Arts. Et comme je m'intéresse tout particulièrement à la question, j'en ai fait une maquette à la hâte de quelques boules de terre.
Boule soutient une thèse très différente. Il ne croit pas à l'atavisme néandertalien. Pour lui, l'évolution n'est pas linéaire. Elle est discontinue, marquée d'échecs, de réussites et d'impasses. L'homme de Néandertal n'est pas seulement un souvenir des temps paléolithiques. C'est une espèce doublement fossile. Elle est archaïque, comme le montre la conformation de l'homme fossile reconstitué par Boule. C'est aussi une espèce disparue, car elle s'est éteinte sans filiation.
Le témoin d'un rameau humain desséché ? En quelque sorte, un cul-de-sac de l'évolution.
Chez aucun homme actuel, on ne trouve réunis les caractères d'infériorité qu'on observe sur la tête osseuse de l'homme de la chapelle au sein. Tout oppose en effet le néandertalien très primitif et si proche des singes anthropoïdes au type de Cro-Magnon.
Oh, Cro-Magnon, Cro-Mignon ! Le nom sonne bien sûr un peu sauvage. Mais celui-là est comme moi, un véritable Homo sapiens, plein de talent, avec son beau front, son grand cerveau et sa face sculptée.
Ce qui déplaît à certains, c'est que la paléontologie défendue par M. Boule ne raconte pas l'histoire d'une ascension glorieuse vers l'humain moderne. Sa théorie inquiète.
Si le progrès de l'homme n'est pas continu, cela veut-il dire que je pourrais, un jour, disparaître à mon tour ? Comme en bord de mer une simple figure tracée sur le sable ?
Pourquoi pas ? Adieu le récit héroïque d'une lente avancée, marche après marche, vers l'homme moderne. Boule plaide pour une science du mouvement vital qui anime toutes les espèces. Si elles se transforment, elles peuvent aussi un jour disparaître.
Là, vous m'embrouillez. Répondez à ma question. Suis-je un singe perfectionné ou un Adam déchu ? Oh, vraiment, je m'inquiète.
Il faut vous résigner. La Bible n'est pas un manuel, pas plus d'histoire que d'anthropologie. Les Anglais Darwin, Huxley et Lyman Haeckel nous ont obligés à regarder différemment les transformations de l'humanité. Mais cela n'a pas été sans difficulté. Le Suisse Claparède a très bien résumé la question.
Sans doute cette vanité, qu'on aime à déguiser sous le nom de sentiment de dignité personnelle, portera bien des gens à repousser d'emblée une théorie qui attribue à l'homme et au singe une origine commune. À cet argument de sentiment, nous pouvons répondre par cet autre de même valeur. Nous aimons encore mieux être un singe perfectionné que l'Adam dégradé par la chute présenté par la tradition biblique.
Eh bien, moi, je préfère Lamartine. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux.
Là, vous partagez l'avis de Victor Hugo dans La Légende des siècles, quand il dit... Et quand un grave anglais, correct, bien mis, beau linge, me dit « Dieu t'a fait homme et moi je te fais singe. Rends-toi digne à présent d'une telle faveur. Cette promotion me laisse un peu rêveur.
Mais au fait, cet ancêtre, que savait-il faire ? Taillait-il des outils ? Avait-il un art ?
Était-il homophabère ou pas ? Les paléontologues distinguent les espèces selon ce qu'elles produisent. Et à partir de là, selon leurs aptitudes corporelles et l'intelligence qu'ils leur attribuent. Pour Marcelin Boule, les caractères physiques de l'homme de Néandertal sont en accord avec ce qu'il fabrique.
Il n'est guère d'industrie plus rudimentaire et plus misérable que celle de notre homme moustérien. L'absence probable de toute trace de préoccupation d'ordre esthétique ou moral s'accorde bien avec l'aspect brutal de ce corps vigoureux et lourd, cette tête osseuse aux mâchoires robustes, et où s'affirme encore la prédominance des fonctions purement végétatives ou bestiales sur les fonctions cérébrales.
Plus tard, en 1929, Teilhard de Chardin, lors de sa mission en Chine, tirera à peu près la même conclusion à propos de l'homme de Shukutien.
Tianxin, 20 janvier 1930. Plus je pense à toutes ces choses et à l'absence apparente d'outillage, plus je me demande si le Sinanthropus, en dépit de la courbure néandertale de son crâne, était déjà intelligent. Et homophabère, comme le dirait Bergson. En volume absolu, le cerveau est bien petit pour un être dont les dents sont plus fortes que celles de l'homme. N'aurions-nous pas affaire à un vrai pré-homme ?
Pas Faber, d'accord. Mais peut-être ces hommes se fabriquaient-ils des peurs, des dieux et des légendes ?
La découverte du néandertalien de la chapelle au sein a posé à nouveau la question d'éventuelles sépultures et de cultes des morts au Paléolithique. C'est le grand débat des grottes de Menton qui recommence. Rappelez-vous cette fameuse sépulture double, découverte par Rivière et aussitôt contestée par De Mortillet qui ne pouvait admettre qu'au Paléolithique on puisse prendre soin des morts. En préhistoire, les lignes de clivage entre spiritualistes, sceptiques et matérialistes sont toujours présentes.
Pour les découvreurs du fossile de la chapelle au sein, la posture dans laquelle se trouvait le corps est significative. Il était placé allongé, en position fœtale, dans une fosse creusée au fond d'une grotte et il était entouré de pièces pouvant être des offrandes.
L'abbé Breuil soutient qu'il y a là une véritable inhumation.
L'homme de la pierre taillée pratiquait-il les funérailles ?
Selon Breuil, des provisions auraient même été données aux défunts pour le grand voyage de l'au-delà. La croyance à une autre vie serait donc possible.
Mais dans le cas présent, Boule est d'un avis contraire. Il refuse une lecture spiritualiste hâtive. Il veut en rester aux faits observés et ne pas conclure au-delà.
Monsieur le savant, j'ai trouvé une pierre peinte et gravée. Est-ce un talisman ou un objet décoratif ? Une expertise s'impose. Les hommes préhistoriques pouvaient-ils être des artistes ? Je m'interroge.
Cette mode des grottes ornées, c'est insensé. Après les peintures murales soi-disant découvertes en Espagne, à Altamira, puis en France, aux Ésies et maintenant ailleurs, de fins limiers veulent nous persuader que ces décorations maladroites datent du néolithique, voire du paléolithique.
Voyez ces œuvres dites magdaléniennes. Ce ne sont que de grossières ébauches et, notez-le bien, peintes dans l'obscurité. Pas une seule trace de fumée ou de suie au plafond de ces grottes. C'est magique, le travail d'un Michel-Ange peint avec des yeux de taupe.
Quant aux figures représentées, est-ce la faune de l'âge du renne ou celle de l'âge moderne ?
On nous parle de mammouths, d'antilopes, d'aurochs. Je n'y vois que des éléphants, des cerfs et des taureaux.
Il suffit d'écouter les traditions locales. Ces grottes ont toujours été des lieux de retraite où les gens du pays ont trouvé un asile sûr en temps de guerre. Ces prisonniers volontaires ont tracé grossièrement les animaux connus dans leur campagne. Et puis, ces grottes sont bien connues pour être des lieux de rendez-vous galants. Pensez à tous ces jeunes gens attendant leur belle par une lune gibbeuse. Pour s'amuser, ils ont tracé des profils d'animaux et des formes étranges venues de leur imagination.
Quand je pense que de grands esprits cautionnent de telles lubies.
Disons, un bon père qui a trouvé un mécène spécialiste des courses en mer et des fosses marines pour financer la publication de ses panneaux décoratifs à l'ocre rouge.
Vous raillez, mais l'histoire scientifique vous donnera tort. Et le prince Albert Ier a eu raison de financer la poursuite des travaux sur l'art pariétal. En août 1902, le congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences a consacré une session à ce sujet. Et les sceptiques n'y ont pas eu gain de cause. Car Taillac, qui dans un premier temps avait formulé des réserves sur les dessins de la grotte d'Altamira, a publié un texte intitulé « Mea culpa d'un sceptique ». Il reconnaît avoir soutenu une erreur commise il y a 20 ans et veut en réparer l'injustice.
Assez d'esthétique et de métaphysique. Revenons à des choses concrètes. Comment protéger les champs de fouilles de tous ces amateurs avides et maladroits ? On voit des horreurs. Mais les fouilleurs locaux veulent garder leur liberté et redoutent un contrôle de l'État.
En 1891, Boulle visite la grotte du Mas d'Asile. Il en revient choqué. Bien que Monsieur Piet ait le droit exclusif de faire des fouilles en ce lieu, des amateurs peu scrupuleux viennent parfois en hâte saccager une partie des bonnes couches pour ne recueillir que quelques harpons ou des galets. Peu de jours avant mon arrivée, un talus a été éventré alors que Piet venait juste de le dégager pour établir la coupe du dépôt en ce point. En examinant les divers os jetés de côté par ce malfaiteur, nous avons reconnu des débris humains. Il y avait là un squelette dont nous n'avons pu sauver qu'une faible partie. Des os longs, un péroné presque complet, notre regret a été d'autant plus grand que ces os sont peints en rouge.
Bien sûr, chaque excursionniste choisit son coin et avec des outils de fortune entame le talus. Chacun travaille pour son compte et pour ses collections. Il faut absolument préserver ces sites, éviter les investigations désordonnées et les pillages. Ces restes préhistoriques font partie de notre patrimoine.
Pas question. Nous, les sociétés savantes locales, sommes vigoureusement opposés à de tels projets. Il ne faut pas oublier que toutes les découvertes qui ont été faites l'ont été par des amateurs éclairés, que vous qualifiez de façon méprisante de fouilleurs de hasard. Nous refusons totalement le jacobinisme appliqué à la science.
Les amateurs ne sont pas les seules menaces. Car Taillac exprime l'avis général en ce début du XXe siècle, lorsqu'il dit « Les archéologues ont détruit à eux seuls plus d'ossements que les agents naturels et que les ouvriers des champs. On est vraiment stupéfait de ne trouver au muséum et dans nos collections qu'une si faible quantité de pièces en bon état et de provenance sûre. » À l'évidence, des mesures de protection s'imposent.
Non. Vous voulez assurer le monopole de quelques scientifiques officiels et l'accaparement de nos pièces par les musées nationaux. Cette volonté de mainmise sur nos découvertes par l'État et les institutions parisiennes est insupportable.
Ne dramatisez pas. Il faut seulement assurer la protection des mégalithes, des grottes, des murs d'enceinte et de tous les emplacements où l'activité humaine a laissé des traces dans le sol.
D'autant que les étrangers, tels ce monsieur Hauser, ne se privent pas de piller notre patrimoine. Hâtons-nous. Si nous voulons conserver ce qui reste de notre plus lointain passé, il est inadmissible de voir l'intérêt de la science française mis en échec autant par la passivité de l'administration que par la mauvaise volonté des particuliers.
Dites plutôt que vous voulez tuer l'émulation scientifique des savants amateurs. Comment peuvent-ils être motivés à mener un travail aussi ingrat si chaque fois qu'il devient intéressant, le produit des fouilles leur est retiré ?
Le projet de loi récemment préparé par la Commission des monuments historiques prévoit une déclaration du fouilleur pour chaque nouvelle investigation, un droit de préemption de l'État sur les objets découverts et une surveillance des sites.
C'est donc bien une police scientifique que vous voulez imposer, avec la création d'un corps d'inspecteurs officiels, encore des nouveaux fonctionnaires, des gendarmes de la science. Il est hors de question d'accepter le contrôle de Missi Dominici, chargé de centraliser le patrimoine artistique des provinces. Ce qui importe, ce sont les conclusions scientifiques des fouilles, et pas l'intérêt du collectionneur, fût-il l'État.
Il est vrai que des exemples récents ont prouvé que les fouilles officielles n'ont pas beaucoup servi à l'avancement de la science. Leurs résultats sont restés jusqu'ici ignorés, en particulier des sociétés locales.
Un projet de loi est finalement déposé en octobre 1910. Il n'aboutira pas.
Que de controverses, Monseigneur. Scientifiques, nationalistes et religieuses, tous ces vacarmes ne désespèrent-ils pas votre Altesse ?
Bien au contraire. J'aime ce genre de défi.
Les besoins sont considérables, mais ne craignez-vous pas que tous ces affrontements entravent la connaissance ?
Justement, c'est la meilleure période. Peu de choses sont en place et beaucoup de ces savoirs restent encore étranges. Les idées des scientifiques sont à la merci d'un coup de pioche. L'anthropologie humaine est en train de découvrir la profondeur du temps. Elle s'élabore dans un grand chaudron désordonné. Le moment est idéal pour lui donner quelques repères fondamentaux. Je ne veux pas imposer une nouvelle école savante. Je veux simplement rassembler les meilleurs chercheurs et leur donner les moyens de travailler et de coopérer en paix. J'ai soumis cette idée à Marcelin Boule et à Henri Breuil qui m'ont donné leur accord. Nous allons créer ensemble le premier institut de paléontologie humaine.
Après avoir projeté des lumières sur les origines de la vie par ses travaux en océanographie, Albert Ier décide de se confronter au problème des origines de l'homme. À cette fin, il va créer le premier centre de recherche entièrement dédié au progrès de la science sur toutes les questions relatives à l'histoire de l'homme fossile. Le 27 novembre 1910, il écrit au ministre de l'Instruction publique pour lui faire part de ses intentions.
Au cours de ma vie laborieuse, j'ai souvent regretté qu'une place plus grande ne fut pas attribuée dans le mouvement intellectuel de notre époque à l'étude du mystère qui enveloppe les origines de l'humanité. À mesure que mon esprit s'éclairait par la culture scientifique, je souhaitais plus ardemment voir s'établir sur une base méthodique les investigations nécessaires pour évoquer les traces fugitives que nos ascendants ont laissées dans le sein de la Terre pendant une incalculable succession de siècles. Et je pensais que la philosophie et la morale des sociétés humaines seraient moins incertaines devant l'histoire des générations écrites avec leur propre poussière.
L'Institut de paléontologie humaine sera la troisième fondation de recherche après l'Institut Pasteur, créé en 1888, et l'Institut océanographique, inauguré en 1906.
Afin d'assurer le contact avec le muséum, je voulais un terrain à proximité du jardin des plantes. J'optais pour des parcelles de l'ancien marché aux chevaux. Mon choix de l'architecte se porta rapidement sur Emmanuel Pontremoli. Il avait réalisé sur la Côte d'Azur une villa très originale, à la fois moderne et d'inspiration hellénistique. La villa Kérylos.
En tant qu'architecte, pour le projet de l'Institut de paléontologie humaine, j'ai fait de la quête de la lumière la préoccupation centrale. La commande me demandait d'éviter tout esprit de luxe. J'ai réalisé une décoration intérieure originale en m'inspirant pour les ferronneries et pour le mobilier de motifs de l'architecture viennoise du début du XXe siècle. J'ai aussi repris pour les mosaïques un alphabet symbolique primitif et certaines boiseries sont d'inspiration polynésienne.
Si l'art a ses principes propres, il se heurte parfois à d'autres logiques. Quand vous viendrez entendre la parole des maîtres auquel je livre ce temple de l'humanité, levez les yeux vers la frise qui enveloppe le monument dans une ceinture animée. Elle évoque la marche de la pensée humaine d'une période à une autre, et vous sentirez l'émotion qui vient aux âmes devant le spectacle de la vérité qui, seule dans le domaine de cette pensée, demeure éternelle. Monsieur Pontremoli, un débat significatif a eu lieu entre vous et les concepteurs scientifiques de l'Institut, Monsieur Boule et l'abbé Breuil.
J'avais prévu une frise en bas-relief et dessiné des scènes évoquant la préhistoire sous un angle assez spectaculaire et montrant une violence archaïque, comme on en voit dans les sculptures du Jardin des Plantes. Il y avait de terribles scènes de chasse, surtout des corps à corps épiques entre l'homme et des animaux sauvages.
Votre choix artistique était conforme aux représentations de notre époque, qui place l'homme des âges farouches dans une ambiance intensément tragique. On l'imagine aux prises avec des bêtes, plus terribles les unes que les autres, au cours de combats pour sa survie. Le drame n'est jamais loin. Mais Boule et l'abbé Breuil ont estimé ces images trop oniriques et éloignées de leur projet intellectuel.
Ils m'ont demandé de concevoir une nouvelle frise, mais cette fois à partir de l'histoire naturelle de l'homme préhistorique, en m'inspirant des derniers reliquats de l'humanité primitive dont nous disposons, les aborigènes australiens, les Fuégiens ou les Négritos des îles Andaman.
Boule et l'abbé Breuil ont voulu mettre en valeur le quotidien des hommes préhistoriques et souligner les points communs qu'ils partagent avec nous. Le résultat est une série de représentations très apaisées, exemptes de toute sauvagerie et de tout regard dépréciatif. J'aime beaucoup l'esprit de ces scènes sculptées par Constant Roux. Elles enseignent aux passants une chose qui me tient particulièrement à cœur. La permanence du génie humain depuis des temps immémoriaux. Ce génie qui permet aujourd'hui aux préhistoriens de déchiffrer les messages venus du plus lointain passé.
La fondation est créée en juillet 1910 et la reconnaissance d'utilité publique est obtenue en décembre de la même année. La construction du bâtiment débute en 1911 et est achevée en 1914, mais en raison de la guerre, l'inauguration officielle n'aura lieu qu'en 1920.
C'est pour aider l'anthropologie à franchir les barrières qui la séparent de la vérité complète que je fonde l'Institut de paléontologie humaine, en lui donnant toute l'indépendance nécessaire pour conduire notre esprit vers la lumière. Et je confie ses intérêts à des hommes qui servent la science avec une sincérité capable de développer sa force et de protéger sa marche contre l'influence des interventions passionnées. Je n'aurais jamais imaginé qu'un siècle plus tard, il serait possible de faire de tels bonds vers le passé. En France, les découvertes de Tautavel nous conduisent à 450 000 ans avant notre ère. Les hommes préhistoriques sont aux portes de l'Europe il y a 1 800 000 ans, et en Afrique, les plus anciens hominidés fossiles sont situés autour de 7 millions d'années.
Le carbone 14, l'uranium, le potassium et bien d'autres substances prodigieuses percent les ténèbres et rendent possibles des datations de plus en plus précises.
Les techniques de reconstitution et d'imagerie en trois dimensions donnent une nouvelle vie scientifique aux fossiles les plus anciens.
Ainsi, le crâne de l'homme de la chapelle au sein, qui m'avait tant impressionné lors de sa découverte, a pu être reconstitué avec beaucoup plus de justesse.
Aujourd'hui, nous savons faire parler le moindre sédiment.
Des pollens fossilisés, un peu d'ADN ancien, des grains de quartz apportés par le ruissellement des eaux.
La présence de strontium. Tous ces indices reliés entre eux nous livrent des pistes de réflexion nouvelles.
En un siècle, de très riches champs de fouilles ont été ouverts avec le soutien de l'Institut. En France, en Géorgie,
en Chine,
en Corée,
en Éthiopie et en Mauritanie.
Ils enrichissent les connaissances et renouvellent les hypothèses.
Par chance, quelques énigmes demeurent. Avons-nous vraiment du Néandertal en nous?
Pourquoi cet homme qui s'est développé pendant au moins 120 000 ans s'est-il finalement éteint?
Que signifient ces peintures pariétales ornant magnifiquement certaines grottes de France et d'Espagne?
Afin qu'advienne tout ce que j'ignore, mais que je pressens, je veux faire appel à la science qui contient toute lumière et vérité. J'attends une anthropologie qui soit maîtresse de faits reconnus et de formules exactes pour guider vers des lois meilleures la morale des sociétés humaines, encore fluctuante parmi la variété des religions et les suggestions d'une barbarie atavique. C'est pourquoi il est désirable qu'une vérité scientifique remplace la légende, qui raconte aux hommes sous tant d'aspects différents et pour satisfaire une mentalité obscure, la genèse de leur formation. L'anthropologie contient un peu de la raison qui fera substituer, dans le gouvernement des peuples, un esprit plus sain au mirage stérilisant de l'ambition politique. Elle renferme un peu de la lumière qui montrera la vanité des haines entre les races, des compétitions territoriales et des guerres suscitées par l'ignorance.